Les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture, tous les soirs, du lundi au vendredi, de 19h30 à 20h, une émission proposée par Raphaël Antoven. Ces deux bêtises, la bêtise, ce drôle de virus, plus répandu que la grippe, qu'on va parler toute cette semaine avec nos cinq invités, dont ce soir, l'essayiste et romancière Belinda Cannon, auteure d'un petit livre au titre optimiste, intitulé « La bêtise s'améliore ». Bonsoir Belinda Cannon.
Bonsoir.
Bienvenue pour cette première des nouveaux chemins de la connaissance. Alors, à vous lire, on se dit qu'il ne suffit pas, tant s'en faut, d'être intelligent pour ne pas être bête. Si la bêtise est vertigineuse, c'est qu'il suffit de se croire au-dessus d'elle pour tomber dedans, comme si au lieu de la dissimuler, l'intelligence ne faisait que la maquiller pour en faire ressortir les traits saillants. L'alternative serait donc d'être un imbécile ou bien de croire qu'on ne l'est pas, ce qui ne prouve rien. C'est dire que la bêtise est un lieu commun, tout le monde est convaincu, tout le monde est concerné, on peut dire ça comme ça ?
Absolument, à un moment ou l'autre, tout le monde est concerné.
Et aussi, penser la bêtise à ce moment-là, c'est donc penser contre soi-même ?
C'est se méfier de soi-même, être dans le doute.
C'est ce que vous faites dans ce livre ?
Sage comportement, non ?
Ah, c'est un sage comportement, mais la façon que vous avez trouvé d'être dans le doute dans ce livre, comme si finalement le remède à l'erreur, ce n'était pas la vérité, mais le doute.
C'est ce que je crois, vraiment.
Alors, dans ce livre, vous mettez en scène trois personnages. Comment ça s'est fait ?
Écoutez, je crois en effet qu'il faut pratiquer le doute, c'est-à-dire la vigilance à l'égard de soi-même, tous les jours et à toutes les minutes. Je pense que parfois on rate, de temps en temps on pense des choses bêtes, c'est-à-dire on pense des choses qui sont pensées avant nous, au-delà de nous, avant qu'on les ait repensées soi-même, et que donc il faut en effet pratiquer cette sorte de vigilance.
On pense des choses bêtes, mais ces choses sont-elles bêtes en elles-mêmes ou est-ce qu'elles sont bêtes parce que d'autres les ont pensées avant nous et que ce sont devenus des lieux communs ?
Je pense que celles qui m'intéressent le plus et dont je parle dans le livre, peut-être parce que c'est un travers d'aujourd'hui, peut-être parce qu'il est éternel, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette bêtise qui résulte d'une bonne idée, d'une idée qui fut bonne il y a fort longtemps et qui s'est déclinée tant de fois depuis qu'elle est devenue très bête et surtout qu'elle s'est caricaturée elle-même et qu'en effet, elle n'est plus qu'un poncif au lieu d'être une idée.
Alors vous mettez en scène cette entropie des idées neuves qui deviennent des idées reçues. C'est formidable. Dans le livre, il y a des passages qui sont vraiment des moments de bravoure où vous parlez notamment du réactionnaire, on dirait du Taguieff romancé, votre histoire.
Oui, le réactionnaire, c'est un terme dont on use avec fureur aujourd'hui. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui a l'air un peu déviant, il est à peu près tout de suite traité de réactionnaire. Et déviant, ça veut dire qu'il n'est pas dans la doxa, qu'il n'est pas dans l'opinion commune. Donc j'ai eu envie, je ne suis pas la première, mais j'ai eu envie de faire un sort à cette idée de réactionnaire qui me casse les pieds depuis très longtemps. Alors pour ça, comme vous l'avez vu, j'ai en effet choisi de mettre en scène trois personnages. C'est un essai que j'ai voulu très fictionnel, parce que justement c'était un sujet périlleux. Dès qu'on se met à parler de la bêtise, en tout cas de cette sorte de bêtise dont je parle là, la bêtise des idées reçues, la bêtise des poncifs, des idées intelligentes dégradées en idées bêtes, on risque toujours de qu'on vous dise « mais alors, vous vous prenez pour une intelligente ?» à Dieu ne plaise, ou bien qu'est-ce que vous imaginez, que vous ne dites que des choses fines, etc. Bref, donc j'ai voulu faire éclater mon discours en plusieurs personnages qui ont chacun des postures un peu différentes et qui sont tous, je crois, un peu de moi-même, certainement, mais tout en étant très singulier, très marqué. Donc voilà, ils vivent ensemble, ils vont dîner ensemble et dans l'un de ces dîners, ils travaillent ensemble. Et dans l'un de ces dîners, ils entendent à nouveau cette accusation de quelqu'un qui serait réactionnaire. Donc ça donne l'occasion de cette discussion.
Ouais, mais en parlant de réactionnaire, on comprend aussi finalement que le terme de réactionnaire varie selon les époques. Aujourd'hui, le réactionnaire, le réactionnaire d'aujourd'hui eût été subversif au début du siècle. Quand Proust, par exemple, dans La recherche du temps perdu, c'est un des textes qu'on donnera à entendre cette semaine, mais quand Proust, par exemple, fait le portrait du docteur Cottard dans Un amour de Swann, le docteur Cottard, il fait semblant d'aimer la sonate de Vinteuil et les tableaux des peintres qu'on lui propose, mais en fait, il n'aime pas ça, il trouve ça complètement bizarre, ses épaules tordues, cette musique quasi dodécaphonique, il n'aime pas ça. C'est pas son truc. Et le discours de Cottard, c'est le discours du réactionnaire de l'époque. Aujourd'hui, le réactionnaire, c'est celui qui défendrait Mordicus, ce que Cotard déteste, parce que c'est d'avant-garde, non?
Oui, je crois que le cas de Cotard, c'est d'ailleurs une des formes exacerbées de cette bêtise des intelligences.
Vous avez dit conformisme, gardez-le.
C'est le conformisme.
Le conformé.
Le désir éperdu de se conformer au petit groupe auquel on appartient ou auquel on voudrait appartenir. Je crois que réactionnaire est une idée périmée, est presque un concept périmé, d'abord parce qu'il ne reste plus beaucoup de réactionnaires. Et écoutez aujourd'hui les discours politiques, puisqu'après tout c'est un terme qui vient d'abord du milieu politique. Écoutez les discours politiques, on ne vous parle que de réforme, de rupture et d'adaptation. On ne peut plus appeler ça des réactionnaires. Un réactionnaire, c'est quelqu'un qui se fonde sur des idées anciennes, antérieures.
Je crois que vous citez à un moment le président de la République disant « l'art doit être subversif ». Donc à quoi ça sert d'être subversif? Quand le président de la République, l'institution en chef, exige la subversion.
Bien sûr, on réclame aujourd'hui la subversion. On vous ordonne d'être subversif. Qu'est-ce que ça veut dire être réactionnaire dans ces cas-là? Vous voyez le sens des mots très éloigné de ce qu'il a été.
Donc être réactionnaire, c'est être déviant. Effectivement, ça rappelle les propos de Pierre-André Taguieff qui écrit, et il nous pardonnera de le dire avec moins de grâce que vous, dans des livres un peu plus longs et plus détaillés. Mais c'est vrai que Taguieff fait par exemple l'histoire de l'antifascisme sans fascisme. En expliquant que l'antifascisme qui perd sa cause est devenu aujourd'hui le porte-parole d'une orthodoxie fâcheuse.
C'est très exactement ça. C'était très exactement en effet le sujet de mon essai. C'est-à-dire l'antifascisme, c'est une idée forte. Enfin, je veux dire, c'est évidemment une position extraordinairement importante dans les années 40 et qui aujourd'hui devient complètement ridicule. Où est le fascisme? Montrez-moi le fascisme. On peut voir des tas de manifestations politiques que je trouve parfaitement répréhensibles, mais le fascisme en tant que tel, c'est trop commode.
Et en même temps, effectivement, ceux à qui vous dites ça, pourraient vous répondre qu'il y a aujourd'hui des individus bornés, conservateurs, et qu'en somme, il s'agirait de lutter contre ce conservatisme. Mais en vérité, le conservatisme est de l'autre côté.
Oui, c'est-à-dire, bien sûr qu'il reste des individus bornés conservateurs. On en connaît tous, on en rencontre régulièrement. Je crois que vraiment, ce ne sont pas les gens les plus dangereux aujourd'hui. Mm-hmm. Ce n'est pas qu'il n'y en a plus, c'est que menons nos combats aux justes endroits.
Hein. Donc ce qui vous inquiète, c'est l'univers clos des gens ouverts.
En quelque sorte.
C'est ça. Mm-hmm. Alors, vous avez parlé de votre livre comme d'un essai. C'est-à-dire?
Écoutez, c'est un essai au sens où il est quand
même tentative.
Argumentatif. Ah, oui, nécessairement une tentative. Je crois que c'est surtout un essai dans le sens où c'est un outil pour réfléchir, hein, et pas pour se distraire, moins pour se distraire, ou en tout cas pour réfléchir tout de suite à partir d'arguments exprimés comme tels. Ce qui n'est pas le cas du roman.
Oui, mais vous mettez en scène trois personnages qui sont en scène, qui couchent ensemble. Il y a des moments de tendresse. On est à mi-chemin de la narration, de la réflexion. Est-ce que c'est un parti pris, le parti pris de ne pas choisir son camp, un parti pris narratif?
Je dirais, comme j'écris aussi des romans en même temps, je ne me sens pas très frustrée de ce côté-là. Donc, si je veux écrire un roman, j'en écris un. Non, c'est plutôt qu'il me semble que... D'abord, il y a une tradition de l'essai que j'aime beaucoup, qui est, par exemple, celle du neveu de Rameau. Il y a bien des personnages dans le neveu de Rameau. Et que je sache, on n'a pas dit que c'était un roman. Donc, c'est cette tradition-là de l'essai dans laquelle je m'inscris, de l'essai dialoguer. Et voilà, je crois que c'est une façon de dire les choses qui n'est pas savante et qui n'est pas péremptoire. Et...
Alors vous parlez du neveu de Rameau, c'est vrai, au début du neveu de Rameau, le philosophe, celui qui dit « moi », à qui on pourrait reprocher d'ailleurs de dire « moi », et on pourrait lui demander pour qui il se prend. Mais enfin, le philosophe, celui qui dit « moi », c'est aussi celui qui décrit ses pensées en disant qu'il en prend une, puis il l'abandonne, il la laisse de côté, puis selon l'humeur, la pensée varie. Et il termine en disant « mes pensées, ce sont mes catins ». Est-ce qu'il n'y a pas dans cette légèreté affichée, autant par le philosophe d'ailleurs que par la personne du neveu de Rameau, qui change d'identité au fil de la conversation, et qui est complètement cyclotimique, est-ce qu'il n'y a pas là, d'une certaine façon, un antidote toujours à la tentation de la bêtise?
Exactement, un antidote à la tentation de la pétrification. Je crois que c'est ça qui nous menace, et c'est aussi contre cela que j'ai voulu écrire, contre la pétrification de la pensée, des idées. Donc la meilleure manière, c'est peut-être de danser un peu avec et les personnages et les idées.
Et le dialogue permet ça?
Oui, je crois. Et puis dans le dialogue, il y a la possibilité, que Diderot connaissait bien d'ailleurs, d'introduire la contradiction. Et après tout, j'avance plusieurs idées sur lesquelles je m'interroge véritablement. Le dialogue, c'est aussi le moyen de les mettre en balance, de les mettre en jeu.
Qu'est-ce que vous répondez aux faiseurs de systèmes qui bâtissent des univers ou hermétiques à toute réfutation et qui, donc, d'une certaine façon, ont toujours raison ? Est-ce que ce n'est pas un signe distinctif de bêtise, ça ?
Vous parlez des philosophes ou des...
Bon,
ou
les philosophes sont compatibles avec la bêtise, oui, et donc...
Non, mais évidemment, votre question appelle une réponse évidente. C'est bien entendu que je ne peux pas être pour les faiseurs de système. Je crois à la mobilité, je crois profondément au mouvement de la pensée.
Et au sourire, c'est perceptible dans le livre. Je vous propose d'entendre un texte maintenant d'un philosophe que vous aimez bien, je crois. Clément Rosset, c'est un extrait du Réel et son double.
La bêtise ne consiste pas, contrairement à ce qu'on pense généralement et à tort, en une paresse d'esprit, mais bien en une débauche désordonnée d'activités intellectuelles, dont témoignent par exemple Bouvard et Pécuchet, héros modernes et indiscutés de la sottise. L'intérêt porté aux choses de l'intelligence, comme il est dit dans La Belle Hélène d'Offenbach, est plus souvent la marque d'un esprit médiocre que celle d'un esprit avisé. Et c'est certainement à juste titre et non par un effet de coquetterie que le plus pénétrant des penseurs français, Montaigne, déclare avoir l'esprit lent.
Dans votre livre, Belinda Cannon, vous faites une apologie de la lenteur à un moment. Et vous dites de vous-même d'ailleurs que vous avez l'esprit lent, vous ne manquez pas de... Enfin bon, on pourrait vous trouver presque arrogante là, au moment où vous faites un éloge de la lenteur.
Ça n'est pas moi qui le dis,
c'est le narrateur
qui est le narrateur, en effet, qui se dit lent. Je ne sais pas si je suis lente, mais en tout cas, on a tous pu observer qu'il y a des esprits extrêmement profonds qui ne sont pas forcément vifs et qu'il y a des esprits vifs qui sont vraiment très bêtes. Donc voilà, j'ai fait aussi l'éloge de la lenteur.
Mais c'est difficile de cerner la bêtise quand même, parce qu'on lui échappe en changeant d'idée, en faisant des pensées comme des catins, comme fait Diderot. On lui échappe en étant mobile, on lui échappe en étant souple. Et en même temps, la marque d'un esprit hermétique à la bêtise, c'est la lenteur.
Oh, j'en suis pas sûre, véritablement. D'abord, mais je dois vous dire que j'ai un peu paré à ce problème parce que je n'ai pas essayé de définir la bêtise. J'ai essayé plutôt dans ce livre de décrire des comportements bêtes. Et de ces comportements-là, nous sommes tous menacés, moi, vous et tous les autres. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de décrire une essence de la bêtise. Je ne pense pas qu'il y en ait une essence de la bêtise. Je ne pense pas qu'il y en ait.
Ce serait idiot de le penser. Oui.
Ce serait tout à fait idiot de le penser et d'en être sûr.
Et en revanche, vous êtes convaincu qu'il n'y en a pas. Allez-y.
Donc voilà, j'ai voulu décrire des comportements bêtes auxquels nous sommes tous, à un moment donné, ce sujet. Et j'ai voulu dire, attention, aujourd'hui, d'abord, nous devons rester dans cette vigilance. Et aujourd'hui, bien, qu'est-ce que j'ai pu repérer dans la vie qui m'entoure et en moi-même ? Qu'est-ce que j'ai pu repérer comme comportement bête provisoirement ?
Provisoirement bête. Dans votre petit livre, Belinda Cannon, sous les dehors d'une conversation à bâton rompu, vous manipulez quand même des problèmes épineux. Et vous parlez notamment de la bêtise intelligente. La bêtise, dites-vous, des gens cultivés, informés, libres d'exercer leur intelligence à tout moment et sur tout sujet, et subissant pourtant l'influence de l'opinion dominante. S'il fallait trouver un synonyme à bêtise, un autre synonyme, ce serait peut-être pas sottise ou connerie, mais consensus.
Oui, il y a de ça, bien sûr. Cette recherche éperdue du consensus, on sait bien, mène toujours au conformisme et donc à la bêtise. Je crois qu'une des formes de bêtise, quand même, les plus avérées, c'est le conformisme. C'est la tentation du conformisme. Oui, au début, je voulais appeler ce livre, d'ailleurs, la bêtise des intelligents, ou la bêtise intelligente, plutôt. Et je n'ai pas pu, parce que le titre était déjà pris, mais c'est vrai que c'était ça, mon sujet. Parce que le plus étonnant, finalement, ça n'est pas quand des gens mal informés ou ayant peu l'habitude de discuter ou de lire disent des bêtises ou des sottises. Le plus étonnant, c'est quand nos amis, c'est quand les gens que nous estimons, admirons, etc., disent des bêtises.
Versent dans l'esprit de système, peut-être.
Provisoirement, encore une fois. Ça reste des gens très intelligents, mais de temps en temps, ils chutent. Et de temps en temps, je crois que nous pouvons tous chuter. Et ça, c'est beaucoup plus énigmatique. C'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre. C'est par quel mécanisme, de temps en temps, on tombe.
On tombe dans quoi ? Dans le confort ? Le confort d'une pensée ?
De toute façon, je pense que c'est très confortable. Je pense qu'en fait, la bêtise est extrêmement confortable.
Elle est douillette,
cette bêtise-là.
Oui. La bêtise est douillette. C'est le sentiment qu'on a en vous lisant. La bêtise est douillette. Elle donne le sentiment d'avoir raison. Elle nous assoit quelque part.
C'est ça. Elle nous met à l'aise avec nos semblables, dans le même discours, dans, dans les mêmes constructions. Et on se sent renforcé par le nombre qui pense comme nous, même si c'est un petit nombre, le petit nombre de ceux qu'on trouve intelligents.
Il y a aussi la position de celui qui croit qu'il suffit d'être seul contre tous pour avoir raison.
Voilà, l'anticonformisme.
Est-ce que ça n'est pas est-ce que l'anticonformisme, alors voilà, est-ce que le dogme de l'anticonformisme justement n'est pas aujourd'hui la forme contemporaine la plus évidente de la bêtise ?
Bien sûr.
Donc quand on lutte contre la bêtise, on doit lutter contre ceux qui se trouvent intelligents.
Oui, et surtout, en effet, on doit éviter... Enfin, l'anticonformisme est devenu une telle norme qu'on peut la suspecter. On peut toujours la suspecter parce que vouloir être contre, aussi obstinément contre quelque chose, c'est encore aller dans l'arène et se battre sur le même terrain.
C'est dire donc que la bêtise change de forme et de mœurs. Je vous propose d'entendre un second texte de Clément Rosset qui justement décrit ce phénomène étrange.
Dès qu'une folie s'estompe, une autre se présente, plus forte parce que moins émoussée par la pratique, qui la remplace et, dans le sens le plus littéral du terme, en tient lieu. Qui vient à se guérir d'une manie en contracte une autre le jour même qui prend le relais. Qui comprend soudain la sottise d'une thèse qu'il défendait jusque-là à corps perdu, adopte sur le champ une nouvelle ineptie à laquelle il mord plus ferme que jamais. Rien de plus curieux, cependant, que cette aptitude à remplacer aussitôt une bêtise par une autre, tout comme si le maintien d'un coefficient moyen de bêtise ou de folie était aussi indispensable au psychisme que l'est à l'organisme celui d'un certain coefficient de globules ou de cellules.
Dans ce texte de Clément Rosset, tout à fait remarquable, on a le sentiment que la bêtise a horreur du vide et qu'elle s'appuie sur le sentiment qu'il suffirait d'être détrompé pour ne plus jamais se tromper.
Oui, là je trouve, moi qui aime beaucoup en effet lire Clément Rosset, là je trouve qu'il fait, qu'il est particulièrement pessimiste et qu'il décrit la bêtise finalement, ce que je n'ai pas voulu faire, comme une essence, c'est-à-dire comme s'il y avait des gens bêtes, absolument bêtes, constamment bêtes, et qu'il suffisait qu'ils aient chassé une bêtise pour qu'elle soit remplacée par une autre. C'est quand même une vision très pessimiste de l'individu. Je pense que ce qu'il dit là, d'ailleurs, s'adapte parfaitement à Bouvard et Pécuchet. Hein, il y a cette espèce de boulimie chez Bouvard et Pécuchet. Sitôt qu'ils ont abandonné une bêtise, ils en trouvent absolument une autre à penser, à explorer, etc. Donc, on trouve en effet ce mécanisme de la bêtise chez des héros comme Bouvard et Pécuchet. Ce que je dirais, moi, un peu à côté de cette idée de la bêtise qui se renouvelle constamment, je dirais, comme c'est le titre de mon essai, qu'elle s'améliore. C'est-à-dire,
oui, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Eh bien, justement, c'est cette idée que si la bêtise était toujours égale à elle-même, on finirait par la connaître, par l'avoir repérée, et on n'y succomberait plus jamais. C'est donc, si on y succombe régulièrement à toutes les époques et tout le monde, c'est donc qu'elle change constamment. Et comment change-t-elle ? D'où mon titre. Elle change, je le disais tout à l'heure, en adoptant des bonnes idées des générations précédentes, en les intégrant, en les schématisant, en les caricaturant et en les répétant à foison. C'est l'antifascisme sans fascisme, c'est le réactionnaire à une époque où tout le monde parle de rupture,
C'est par exemple le procès intenté à ceux qu'on appelait les nouveaux réacs.
Donc vous voyez, c'est vraiment le faux procès à partir d'arguments ou de concepts qui étaient valides quelques générations plus tôt. C'est en ce sens que je dis la bêtise s'améliore. C'est-à-dire qu'elle prospère à partir des bonnes idées des générations précédentes en les réactualisant, mais en les dégradant aussi.
Ah donc, quand vous dites la bêtise s'améliore, c'est pas optimiste du tout, en fait.
Non, pas du tout. C'est ni optimiste ni pessimiste, puisque mon livre part quand même de l'idée qu'on peut constamment, par justement cette vigilance, s'améliorer soi-même.
Alors, optimisme et pessimisme, regardons ça. Dans quelle mesure sont-ils compatibles avec la bêtise ? Il y a le ravi de la crèche, le toujours optimiste, le toujours content, qu'on peut trouver bête, d'être toujours content, puisqu'après tout, la vie n'offre aucune occasion d'être toujours content. Et il y a le pessimiste. Est-ce que finalement le pessimiste se sent un peu de frais plus intelligent que l'optimiste dans la mesure où il prédit le pire ? Mais celui qui prédit le pire ne prend pas plus de risques que l'optimiste, non ?
Bien sûr. Et puis vous voyez qu'on parle encore de catégorie, de caractère, comme aurait dit La Bruyère. Moi, je ne parle pas de caractère puisque je ne parle jamais de bête, mais je parle de bêtise active.
Non, mais vous dites la bêtise.
Bête.
Vous dites la bêtise, ce qui est contradictoire. Vous dites qu'il n'y a pas d'essence de la bêtise.
Oui, je veux dire qu'il n'y a pas d'être absolument, définitivement bête. bête, mais que chaque être peut à un moment donné être bête. C'est quand même très différent.
Bien sûr, mais alors à quoi est-ce qu'on repère ce qui n'a pas d'essence ? Comment est-ce que vous la repérez ? L'évidence de la bêtise. Vous êtes là, ça vous crève les yeux, et pourtant, vous ne saurez pas dire ce que c'est. Comme la beauté. On voit un spectacle magnifique, on pourrait dire des goûts et des couleurs, chacun ses goûts, mais si quelqu'un, face à un coucher de soleil, trouve ça laid, vous allez le regarder comme un fou.
Absolument.
La bêtise comme la beauté,
absolument.
On ne sait pas ce que
là,
c'est.
Là, vous êtes trop relativiste, monsieur.
Allez-y, allez-y, démentez-moi.
Je veux dire que, là, bien entendu, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. On se dit tous, à un moment donné, c'est bête, il est bête, il vient de dire une bêtise. Et puis, on a un peu de mal à vraiment argumenter. Et bien voilà, j'ai passé un certain temps à essayer de comprendre pourquoi, devant certaines profération bête de mon temps, pourquoi je les disais, trouvais, estimais bête. Et j'ai réfléchi à ça. C'est ça le sujet de mon livre au fond. Donc ça n'est pas les bêtes, mais c'est certains propos ou comportements qui à un moment donné me paraissent bêtes et j'essaie de comprendre comment ils l'étaient et comment cette bêtise était vraiment d'actualité, hein, comment elle nous était absolument contemporaine. Voilà, donc en ce sens, ce qui est optimiste ou la position optimiste, qui est toujours la mienne du reste, consiste à dire, eh bien nous pouvons changer cela, nous pouvons améliorer non pas notre bêtise, mais notre vigilance pour éviter la bêtise.
Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de bêtise à croire en un progrès de la conscience humaine qui la soulagerait de la bêtise, d'une certaine façon ?
Écoutez, à un niveau collectif ou général, peut-être, je ne m'engagerai pas dans cette discussion. Au niveau individuel, vraiment, je crois que oui, on peut absolument s'améliorer constamment.
En même temps, on parlait tout à l'heure de cette essence de la bêtise, donc cette essence introuvable de la bêtise, qui prouve quand même que le langage n'est pas adapté à l'idée que vous essayez de développer, le langage en lui-même.
Donc ça peut-être est un terme qui correspond mieux à ce que je veux dire.
L'opinion commune,
l'opinion
dominante.
L'opinion commune du moment, forcément du moment. Dans la doxa, il y a vraiment une notion temporelle que peut-être la bêtise, l'expression bêtise ne rend pas.
Ce qui veut dire que l'adhésion à l'opinion commune serait un signe distinctif de la bêtise ?
Pas nécessairement, mais souvent oui.
Oui, parce qu'il veut
des très bonnes opinions communes aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est aussi la nature de l'idée à laquelle on adhère. Mais pour en revenir au langage, il y a un moment, c'est jubilatoire dans votre livre, vous parlez de la satisfaction de parler la langue commune. Mmh. Alors vous prenez deux ou trois expressions comme ça. Par exemple, il y a ceux qui souffrent quelque part. Souffrir quelque part, et ça, vous trouvez ça délicieux, et c'est assez délicieux à lire. On souffre quelque part, ou alors on met en exergue, c'est pas on met en exergue pour dire on met en relief, et vous dites comme l'exergue est joli, comme il a bonne mine, comme il fait savant.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'absolument désespérant dans cette tentation de parler la langue commune, de sauter sur les expressions, les poncifs du moment, et dont je dis que j'ai l'impression que c'est vraiment l'inscription de la passion moutonnière dans la langue.
La passion
et donc,
grégaire.
Dans la pensée. Oui, c'est très désespérant. C'est plus désespérant qu'on ne le dit, ces expressions communes.
Alors, il y a une autre formule, par exemple, que vous ne citez pas dans votre livre, mais peut-être elle aurait trouvé sa place. C'est cette façon de garder la forme directe d'une question quand la question est indirecte. On dit, au lieu de dire je ne sais pas qui c'est, on dit je ne sais pas qui est-ce. Façon de donner tour un peu distingué à la question qu'on pose. Et cette forme du langage, mais plus profondément peut-être, est-ce que le langage, vous écrivez, vous faites cette expérience-là, vous faites cette expérience des idées qu'il s'agit de retranscrire avec un stylo. Vous écrivez, est-ce qu'en écrivant, on ne fait pas l'expérience justement de cette, non pas cette inaptitude à retranscrire une idée, mais l'inaptitude à conserver la célérité d'une idée, tout simplement, quand on l'écrit. Est-ce que le langage n'est pas propice à la bêtise ?
Oui, en tout cas, on ne voit pas ce qui d'autre pourrait l'être que le langage. Bien sûr, le langage est propice à la bêtise, mais encore une fois, je ne vois pas comment la bêtise pourrait se manifester ailleurs ou autrement que dans du langage.
Ça, c'est incontestable. On va entendre un dernier texte pour aujourd'hui, qui est la première page de Bouvard et Pécuchet, de Flaubert. Écoutez ça.
Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède, et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait, le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure, que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin « Bouvard ». pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « pécuchet ».« Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. « Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi, je suis employé. » Alors, ils se considérèrent.
Il faut saluer Georges Clès, dont la lecture nous donne à vivre quasiment à côté de Bouvard et Pécuchet, boulevard Bourdon, et avec Flaubert. Comment est-ce que vous comprenez, vous qui voulez sauver Bouvard et Pécuchet dans un chapitre de votre livre, comment comprenez-vous que ce que Flaubert appelait son encyclopédie de la bêtise humaine commence par deux hommes qui se reconnaissent, comme deux alter ego?
Ce qui me frappait là, c'était plutôt qu'ils avaient mis leur nom dans leur chapeau. Et je sais bien que c'est une coutume habituelle, mais là, tout de suite, c'est ça qui me frappe. Cette manie, parce qu'elle est de notre époque, c'est à ça que je pense, cette manie de notre époque de mettre notre ego en avant. Grande source de bêtises. Ce n'est pas vraiment le problème des personnages de Flaubert, mais en tout cas, c'est un de nos problèmes.
Mais ils mettent le nom dans leur chapeau, mais surtout, ils s'aperçoivent qu'ils le font tous les deux. Et c'est là qu'ils se considèrent. Comme dit Flaubert, le mot n'est pas innocent d'ailleurs.
Oui. Elle était très belle cette rencontre sur le boulevard Bourdon de ces deux personnages insignifiants. Mais je pense que justement, ils sont vraiment des hommes de leur temps, des personnages de leur temps qui ont des préoccupations de leur temps. C'est vraiment l'homme ordinaire. Et c'est sans doute en ça qu'ils sont très touchants.
Mais est-ce que la rencontre entre Bouvard et Pécuchet est vraiment une rencontre? Quand on rencontre quelqu'un, on rencontre quelqu'un d'autre. Bouvard et Pécuchet se reconnaissent et se considèrent dans la mesure où soit ils sont semblables, ils ont les mêmes habitudes, soit ils mesurent leurs différences à l'aune de ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, d'une certaine manière, ils ne sortent jamais d'eux-mêmes.
Bien sûr, et de surcroît, comme vous en souvenez, ils sont copistes, donc ils ont vraiment une propension à la répétition et au même, je dirais, qui est dans leur nature même.
Mais pourquoi vous voulez les sauver alors dans votre livre, hein, Bouvard et Pécuchet?
Parce que je pense que je ne suis pas
sûre qu'ils étaient
au
demeurant,
si
hein, mais...
singuliers. Je veux dire que justement, ce sont des hommes de leur temps, de leur époque, et que leur bêtise peut-être était aussi bien celle de Flaubert dans sa passion de l'accumulation de documents, de notes, etc. Vous voyez qu'il y a justement, je les sauve au sens où ils sont comme nous.
Flaubert reconnaît un moment dans sa correspondance, hein, il dit « leur bêtise est mienne et j'en crève », dit-il. Est-ce que dans l'accumulation quasi mortifère de Bouvard et Pécuchet, de science, etc., il n'y a pas justement donc un déni de réalité, une volonté de faire compliqué au lieu de faire simple?
Oui, et il y a surtout, oui c'est ça, mais la passion du même c'est forcément une passion mortifère, on le trouve ça dans Bouvard et Pécuchet, hein, cette tendance à cette tendance morbide quasiment dans la répétition et dans le même.
Finalement, la passion du même, c'est faire compliqué quand on peut faire simple.
Peut-être.
Merci Belinda Cannon.
Merci.
Merci
beaucoup.
Merci à vous, merci d'être venue. Je rappelle le titre de votre livre, hein, récemment paru chez Stock, « La bêtise s'améliore », dont vous retrouverez les références sur notre site internet, à la page des nouveaux chemins de la connaissance. À la technique aujourd'hui, Michel Mestre et Jacques Vincent, à la réalisation toute la semaine avec nous, Daniel Finot. Assistante Avril Ventura, Geneviève Méric. Suite demain de ces trajectoires de la bêtise à 19h30, en compagnie cette fois-ci de Pierre-Marc de Biasi, avec qui on reviendra longuement et abondamment sur le cas Flaubert, texte à l'appui, Bouvard, Pécuchet, mais aussi l'inénarrable Monsieur Homais, l'anti-héros de Madame Bovary. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver les avoinus de France Culture. À demain.